D'abord, je voulais savoir si il y en aurait une parmi vous qui serait capable de jouer de l'orgue. Non, il n'y a pas des organistes parmi vous? Oui, non? Non, c'est pour savoir qui pourrait faire la vaisselle ce soir. Non, je plaisante. C'est tout simplement parce que vendredi matin, il y aurait une messe chantée. Et donc, nous n'avons personne au séminaire qui peut jouer de l'orgue. Mais bon, il y a personne parmi vous. Une fois, deux fois, trois fois, ben, tant pis. Donc ce sera une messe a cappella. En écoutant Monseigneur Chevreau à midi à table, il disait, c'était la fin de la conférence, qu'il fallait mettre l'accent surtout sur le fond de notre âme, finalement, qui doit être essentiellement orienté vers Dieu, plus que de rechercher à lutter contre tel défaut ou acquérir telle vertu. Je pense qu'en fait, donc son message est très important, donc je vais vous le reformuler. Chaque prêtre le formule un peu à sa manière. Mais il ne faudrait pas croire que l'un exclurait l'autre, en fait. Et je pense que pour progresser, on a besoin des deux. Donc là, on va arriver à la deuxième partie de la retraite et sans faire une obsession dessus et ne regarder plus que cet aspect-là, l'aspect des résolutions, c'est quand même clair que la qualité d'une retraite dépend des résolutions que l'on prend. Et si on prend simplement comme résolution ben, celle d'aimer davantage, par exemple, bon, le bon Dieu, bon, c'est très bien. Mais c'est sûr que c'est une résolution qu'on aura peut-être plus de mal à tenir qu'une autre, parce que elle ne sera pas suffisamment concrète. Et donc l'amour se prouve dans le concret de la vie. Voyez. Donc si vous êtes mère de famille, que vous avez des enfants, si vous avez un de vos enfants qui va vous dire, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être gentil. Bon, c'est déjà très très agréable pour une maman. Vous voyez. Mais si vous dites, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus râler, bon, c'est déjà mieux, c'est plus concret encore. Ou de t'aider à mettre le couvert, ou de voilà. Donc il peut y avoir ensuite des résolutions qui sont après plus précises et plus concrètes. Et c'est évident que et donc plus vérifiable aussi en même temps. Alors il est vrai que l'un suppose l'autre en quelque sorte. Celui qui a pris la résolution uniquement d'être plus gentil ou de mettre le couvert. S'il le fait pour, par exemple, de mettre le couvert, c'est pour avoir la paix, parce qu'il en a assez d'entendre sa mère qui râle en disant ah, « mets le couvert hein, !» Bon, puisque comme ça, je mets le couvert. Voilà. Donc c'est sûr que ce n'est pas forcément encore idéal, vous voyez. Donc s'il le fait vraiment par amour de Dieu et par amour de sa maman, c'est sûr que c'est bien mieux. Voilà. Et il est évident que plus il aimera profondément sa mère et profondément le bon Dieu, et plus ce sera facile pour lui eh bien, de mettre le couvert et d'être plus sage. Voilà. Mais donc il ne faudrait pas conclure de ce que disait Mgr Chevreau, qu'il suffirait d'une résolution qui toucherait, qui serait trop vague en quelque sorte, qui est plus profonde, mais qui serait trop vague. Par contre, maintenant, pour vous montrer aussi l'importance de la réflexion de Mgr Chevreau, pour montrer qu'il touche quand même un élément très important de la vie spirituelle, je vous livre ici deux passages de ce livre sur la sainteté sacerdotale qui vient de paraître, de Mgr Lefebvre, un livre posthume, où il s'adresse donc aux futurs prêtres, mais Mgr dit ceci: on se demande pourquoi il y a tant de défections dans le sacerdoce. Donc il parle même de prêtres qui, hélas, sont arrivés à abandonner leur sacerdoce. Et quelle est la réponse que donne Mgr Lefebvre? Peut-être ces prêtres n'ont-ils pas su ce que c'était que la prière. Alors, on peut se dire comment un prêtre peut ne pas avoir su ce que c'était que la prière. Donc il précise, ils ont prié superficiellement, par habitude, par un certain devoir social en quelque sorte. Ils se sont acquittés de ce devoir dans l'exercice de leur fonction. Mais ils n'ont pas prié véritablement. Ils n'ont pas appris qui est Dieu, ni en quoi consiste notre union à notre Seigneur Jésus-Christ. Ben, je pense que ça, vous voyez, cette réflexion sur Lefebvre est très importante. Parce que le secret justement de la persévérance dans la vie chrétienne réside dans une compréhension de ce que c'est que la religion, de ce qu'est Dieu et des rapports qu'on doit avoir avec lui. Et dans la même ligne un petit peu que Mgr Lefebvre, il y avait le cardinal Mercier qui écrivait une lettre, prêché une retraite à ses séminaristes, et c'est apparu après sous forme d'entretien dans un livre. Et il distinguait, lui, donc méditation et oraison. Et pour montrer la différence entre les deux, il disait que la méditation était en quelque sorte, si vous voulez, une réflexion intellectuelle, où on réfléchit un petit peu sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les vertus à avoir, mais ça reste quelque chose de personnel, en quelque sorte, enfin, ça reste quelque chose où c'est l'homme qui réfléchit à Dieu, où il réfléchit sur Dieu, mais il est seul à le faire. Et il va montrer que l'oraison, c'est autre chose. L'oraison, ça va être un cœur à cœur avec Dieu. Vous voyez. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, en fait, c'est qu'au cours de cette retraite, vous arriviez, chacune d'entre vous, à bien saisir, à bien comprendre la différence, précisément, pour être capable d'avoir une vie qui soit toujours plus agréable à Dieu. Il disait, donc, le cardinal Mercier, « La méditation quotidienne nous est souvent représentée comme un exercice qui occupe en chacune de nos journées une place à part et consiste en une concentration intense de la pensée sur un point de la vie chrétienne dans le but de déterminer et de proposer à la volonté une ou plusieurs résolutions d'amendement ou de progrès. Je n'affirme pas que les maîtres contemporains de la vie spirituelle s'attachent à définir ainsi la méditation, mais je crois ne point me tromper en disant, appuyé sur une expérience déjà longue, que beaucoup d'âmes pieuses, religieuses, sacerdotales se font de leur oraison journalière la conception qui vient d'être esquissée. Le travail de la tête est regardé comme l'œuvre principale du méditatif. Les facultés cognitives, donc de l'intelligence, y entre les premières en exercice pour mettre l'âme en présence de Dieu et pour lui donner, au moyen de préludes, une solide assiette intérieure. Puis, elle garde dans la méditation entière le rôle le plus actif. » Et alors ensuite, après, il va dire « Or, la méditation n'est pas un exercice intellectuel solitaire, mais un entretien de l'âme avec notre Dieu vivant. » Et c'est ça qui est important. C'est que la prière, vous voyez, c'est pas un acte solitaire de réflexion qu'on se fait sur Dieu, mais c'est vraiment un entretien qu'il doit y avoir entre nous et Dieu. Donc la profondeur de notre, enfin la fécondité de notre vie dépend essentiellement de la du mode de communication entre notre âme et Dieu. Suivant qu'on considère Dieu comme étant un être lointain ou un être qui est au contraire tout proche de nous et qui est en même temps infiniment grand, eh bien, suivant donc le mode de relation qu'on a avec lui, bien sûr que notre prière sera différente et notre façon de vivre aussi. Étant un entretien avec Dieu, l'oraison consistera à écouter Dieu plus encore qu'à lui parler. Bien sûr qu'il faut, on fait les deux dans l'oraison. L'objet principal de l'oraison ne sera donc pas une vérité abstraite à mûrir dans un intérêt moral. Son objet principal sera notre Dieu vivant, notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne, ses enseignements, ses exemples, ses états, ses œuvres. N'eussions-nous pas conscience de vouloir nous amender ou nous perfectionner, l'oraison nous purifiera, nous sanctifiera, car les attraits du cœur de Dieu sont le plus fort stimulant de l'effort chrétien et le motif le plus efficace des déterminations viriles d'une âme généreuse. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est bon, une grande foi, de l'amour, bien sûr, de l'espérance aussi. Donc c'est vraiment la mise en action dans l'oraison, dans la prière. On met en exercice notre foi, notre espérance, notre charité. Et puis après aussi, exercice de la vertu de force, parce que ce n'est pas toujours facile de prier, parce qu'il y a des moments où le bon Dieu se cache. Mais justement, c'est le moment de dire, Seigneur, vous vous cachez, mais je sais que vous êtes là, je crois que vous êtes là, je vous aime, je veux vous rester attaché. Et donc, notre problème à nous, c'est qu'on voudrait trop sentir, on voudrait avoir une approche trop sensible de Dieu, ou savoir si notre vie est vraiment conforme à ce que le bon Dieu attend de nous, savoir si le bon Dieu est content de nous, si on est content de lui. Enfin, on est un peu trop attaché à nous, quoi. Donc, il faut apprendre à se détacher et avoir vraiment cette grande confiance en Dieu. Et pour cela aussi, c'est vrai qu'on doit essayer d'avoir une vie où... qui soit ensuite conforme à Dieu. Parce que bien sûr, si dans la prière, on dit au bon Dieu qu'on l'aime, mais que dans notre vie, on voit bien qu'il y a des choses qui clochent, qui ne sont pas tout à fait dans l'ordre, eh bien, on sent bien que ça sonnera faux. Et Et après, donc, il disait, dans une certaine mesure, toute âme chrétienne doit pratiquer l'oraison, car à tout homme, il a été dit qu'il doit chercher en première ligne le royaume de Dieu et sa justice, et notre divin sauveur ne s'adressait pas à une élite, mais à l'humanité chrétienne, sans distinction d'État. Quant à la demande de ses apôtres, maître, comment devons-nous prier ? Ça me fait penser qu'un prêtre qui était à Écône, le père Bariel, qui est mort en 1983, donc était un directeur spirituel de beaucoup de séminaristes. Un jour, un séministe vient le voir et puis lui dit « Ah là, mon père, moi j'ai de très grosses difficultés quand je me mets en prière, j'ai beaucoup de mal à me concentrer. » Réponse de ce père en ce moment-là qui lui dit « Imbécile, quand tu vas voir ta mère, est-ce que tu cherches à te concentrer ?» Je pense, vous voyez, qu'il répondait un petit peu à ce que je vais vous montrer là. C'est que la prière, c'est vraiment un rapport entre notre âme et un être vivant. Et d'ailleurs, Mgr Lefebvre donne aussi un peu la réponse sur ce qu'est cette prière dans une autre conférence où il dit... Il n'est pas nécessaire pour faire oraison de multiplier les pensées, de multiplier les idées, les lectures. Au contraire, c'est simple. C'est vrai que ça devrait arriver à devenir simple. Pas forcément tout de suite. Il s'agit de manifester l'amour que nous avons pour celui qui nous a tout donné. Nous savons qu'il est là, présent en nous, à côté de nous, qu'il est partout. Alors il nous plaît d'être avec Dieu, de demeurer avec lui. L'oraison, c'est l'amour. Ainsi, un enfant est heureux à côté de sa mère. Quand il est avec elle, il est tranquille. Si on lui enlève sa mère, il pleure. Près d'elle, il reste là, il ne dit rien. Et pourtant, il est bien uni à sa mère. La preuve, c'est qu'il pleure et crie lorsqu'on l'en sépare. Nous devrions être comme cela aussi avec le bon Dieu. Si on nous séparait de lui, nous ne devrions pas le tolérer. Or, on peut être partout avec Dieu. Alors ne compliquons pas nos oraisons, ne nous tracassons pas pour chercher des voies compliquées. Lisez Le chemin de la perfection de Sainte-Thérèse d'Avila. Dans ce livre qui est si simple, elle parle de l'oraison. Elle la fait consister dans de simples regards, de simples affections vis-à-vis du bon Dieu. Donc, au cours de cette retraite, essayons donc de croiser le regard de Dieu, mais d'une façon donc toujours très simple, même si ce n'est pas toujours simple d'être simple. Alors maintenant, je voudrais continuer à vous parler de la Sainte Vierge, puisque c'est un petit peu la dominante que j'ai voulu donner à cette retraite, donc la place de la Sainte Vierge. Et je m'aperçois d'ailleurs que je me suis trompé dans mes papiers, donc je vais aller chercher les bons. Donc jusqu'ici, on a vu la prédestination de Marie, et maintenant on arrive à la... Marie, mère de Dieu et mère des hommes. Donc on a vu la place de la Sainte Vierge dans le plan de Dieu. Maintenant, on va la voir dans le temps. Donc tous les attributs de la Sainte Vierge, toutes les qualités de la Sainte Vierge sont rattachées à sa maternité divine. La Sainte Vierge est mère de Dieu et c'est en raison de cette maternité divine qu'elle a eu tous ses privilèges. Que ce soit son Immaculée Conception, que ce soit sa virginité perpétuelle, que ce soit son Assomption, toutes ces qualités sont rattachées à sa maternité divine. Donc il faut essayer de se remettre un petit peu dans l'atmosphère de la Sainte Vierge lorsque l'archange Gabriel est venu la trouver à Nazareth pour lui demander d'accepter de devenir la mère de notre Seigneur. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous concevrez et enfanterez un fils auquel vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera jamais sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Saint Luc, chapitre 1er, versets 28 à 33. Donc le bon Dieu a décidé de venir sur la terre pour nous racheter et il a voulu que cette incarnation ait lieu dans le sein d'une vierge, dans le sein de Notre-Dame. Cependant, avant de venir sur la terre, le bon Dieu a voulu que la Sainte Vierge réponde librement à son attente. En effet, le bon Dieu nous a donné la liberté, Ève a fait un mauvais usage de sa liberté, le bon Dieu a voulu que la très sainte Vierge Marie, en faisant un bon usage de sa liberté, répare le péché d'Ève. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et à l'instant même, eh bien, le Saint-Esprit a formé du plus pur sang de Marie un petit corps. Dieu a créé l'âme la plus parfaite qu'il eût jamais créée, et le Fils de Dieu s'est uni à ce corps et à cette âme. Le Verbe s'est fait chair, Dieu devient homme, cet homme s'appelle Jésus-Christ, ce qui veut dire sauveur. Et à l'instant même, donc, la Sainte Vierge devient mère de Dieu. Alors ici, vous avez donc eu dans les premiers siècles des hérétiques qui sont arrivés à nier que la Sainte Vierge était réellement mère de Dieu. Et pour appuyer cette vérité qui a été finalement définie par l'Église, un des pères de l'Église, Saint Cyril d'Alexandrie, a essayé d'expliciter cela en prenant l'exemple de ce qui se passe lorsque un enfant, d'une façon ordinaire, donc vient au monde. Les parents donnent à cet enfant le corps. Vous voyez, le corps d'un enfant vient des parents. Mais l'âme ne vient pas des parents. Les parents donc donnent le corps à l'enfant, mais l'âme vient de Dieu. Une âme humaine, eh bien l'âme humaine vient nécessairement de Dieu. L'âme, elle est simple. Parce que sinon, on dirait alors, l'âme, alors, elle vient de qui? Elle vient de la mère, elle vient du père? Ben non, elle vient ni de la mère, ni du père. À chaque conception d'enfant, le corps vient des hommes, mais l'âme vient de Dieu. Dieu infuse une âme au moment de la conception. Et pourtant, eh bien, on ne va pas dire que les parents sont les parents du corps de cet enfant. On va dire que c'est les parents de cet enfant. Mais un enfant, c'est une âme et un corps. Parce que si vous prenez un corps sans une âme, qu'est-ce que c'est qu'un corps sans une âme? C'est un cadavre. Vous voyez. Et donc, on dit bien que les parents sont les parents de cet enfant, même si les parents n'ont donné à l'enfant que le corps. Et de fait, les parents sont réellement les parents de cet enfant. Vous voyez. Eh bien, pour la Sainte Vierge, c'est exactement la même chose. La Sainte Vierge, elle a mis au monde un homme, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, mais il se trouve que cet homme est un homme-Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne en notre Seigneur. Il y a deux natures, mais il y a une seule personne. Une personne divine. Et comme cette personne, elle est divine, elle est la mère de cette personne qu'elle a mis au monde. Comme cette personne est divine, elle est réellement mère de Dieu. Donc la Sainte Vierge n'est pas mère de la divinité, bien sûr, mais elle est réellement mère de Dieu parce qu'elle a mis au monde cet enfant qui était Dieu. Donc je vous lis maintenant ce que dit Saint Cyril d'Alexandrie, je pense que vous le comprendrez mieux. La Sainte Vierge peut être appelée à la fois mère du Christ et mère de Dieu, car elle a mis au monde non point un homme comme nous, mais bien le Verbe du Père qui s'est incarné et s'est fait homme. Mais, dira-t-on, la Vierge est-elle donc mère de la divinité? À quoi nous répondons? Le Verbe vivant, subsistant, a été engendré de la substance même de Dieu le Père. Donc le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, vient du Père. Il existe de toute éternité, conjointement avec celui qui l'a engendré, il est en lui, avec lui. Mais dans la suite des temps, il s'est fait chair, c'est-à-dire s'est uni une chair possédant une âme raisonnable. Dès lors, on peut dire qu'il est né de la femme selon la chair. Ce mystère, d'ailleurs, a quelque analogie avec notre génération même. Sur la terre, en effet, les mères, d'après les lois mêmes de la nature, portent dans leur sein un fruit qui, obéissant aux mystérieuses énergies déposées par Dieu, évolue et finalement se développe en forme humaine. Mais c'est Dieu qui, dans ce petit corps, met une âme, de la manière que seul lui connaît. C'est Dieu qui façonne l'âme de l'homme, dit le prophète. Or, autre chose est la chair, autre chose est l'âme. Pourtant, bien que les mères aient produit le corps seulement, on ne laisse pas de dire qu'elles ont mis au monde l'être vivant, corps et âme, et non point seulement une de ses parties. Nul ne dirait par exemple qu'Élisabeth est la mère de la chair, sarcotokos, qu'elle n'est pas la mère de l'âme, psychotokos, car elle a mis au monde Jean-Baptiste avec son corps et son âme, cette personne unique, l'homme composé de corps et d'âme. C'est quelque chose de semblable qui se passe à la naissance de l'Emmanuel, donc c'est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été, avons-nous dit, de la substance du Père, étant son Verbe, son Fils unique. Mais quand il a pris chair et qu'il s'est fait Fils de l'homme, Il n'y a, ce me semble, aucune absurdité à dire, et bien plutôt, il est nécessaire de confesser qu'il est né de la femme selon la chair, exactement comme l'on dit que l'âme de l'homme naît en même temps que son corps et ne fait qu'un avec lui, bien qu'elle en diffère complètement quant à la nature. Alors cette réflexion-là vous paraît peut-être une réflexion un peu intellectuelle, mais qui est quand même très importante déjà au niveau spirituel, par les conséquences que ça entraîne, parce que si la Sainte Vierge est réellement mère de Dieu, bien sûr qu'elle a une grande puissance sur le cœur de Dieu. Et également, puisque le but c'est d'arriver à comprendre le fondement de la dévotion à la Sainte Vierge, bien sûr que notre dévotion à la Sainte Vierge est liée à cette grande qualité qu'elle a d'être mère de Dieu. Et toutes les qualités que la Sainte Vierge donc, a pu avoir et tous les privilèges qu'elle a eus, elle les a eus en raison de cette maternité divine. Parmi les privilèges de la très Sainte Vierge Marie, le premier qui saute aux yeux, c'est son immaculée conception. La Sainte Vierge a été créée immaculée, c'est-à-dire sans tache. Ça veut dire qu'au moment de sa conception, elle n'a pas contracté, comme les autres enfants, le péché originel, la tache du péché originel. Et là encore, c'est un dogme qui a été défini au XIXe siècle, qui était une pensée commune de l'Église déjà depuis des siècles, mais l'Église n'avait pas encore tranché tout de suite cette vérité qui est devenue maintenant une vérité de foi catholique. Et en effet, il y avait même eu des théologiens à penser que la Sainte Vierge aurait été purifiée du péché originel, mais qu'elle aurait eu pendant un certain temps, un peu comme Jean-Baptiste qui a été purifié dans le sein de sa mère, mais qui avait contracté la souillure originelle. Pourquoi cela ? Eh bien, pour deux raisons. Pourquoi les théologiens, donc, qui finalement, après, donc, l'Église a tranché, encore une fois, mais pourquoi ils pensaient que la Sainte Vierge, alors que pour nous c'est une évidence maintenant, qu'elle n'a pas eu la tâche du péché originel, et pourquoi pensaient-ils qu'elle aurait eu cette tâche ? Eh bien, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le péché originel est contracté par voie de naissance, justement. C'est-à-dire que tout enfant d'Adam, qui naît de façon naturelle, on peut dire, par ses parents, contracte cette tâche du péché originel, par le corps, pas par l'âme, puisque l'âme vient de Dieu. Donc c'est par le corps que nous attrapons, en quelque sorte, qu'on contracte ce péché originel. Et saint Paul dit bien aux Romains, tous ont péché en Adam. Donc saint Paul dit aux Romains, chapitre 5, verset 12, tous ont péché en Adam. Donc si tous ont péché, on dit, tous ont péché, donc la Sainte Vierge aussi a péché en Adam. Eh bien non. Et pourquoi cela maintenant ? Parce que aussi bien du point de vue, donc quand on sait comment le péché originel donc, est contracté, on se dit la Sainte Vierge est née de façon naturelle, donc elle a dû contracter cette souillure, à la différence de notre Seigneur qui a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, bon, qui était Dieu en plus, mais qui a été conçu par l'opération du Saint-Esprit, donc lui ne pouvait pas avoir eu la tâche du péché originel. La Sainte Vierge, il semblerait qu'elle aurait eu. Pourquoi il convenait par contre qu'elle ne l'ait pas ? Eh bien parce que, je vous l'avais dit donc à la dernière conférence, la mission de la Sainte Vierge consiste à consister essentiellement donc à vaincre Satan. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. C'est là la mission de la Sainte Vierge, de vaincre Satan. Donc Ève a été vaincue par Satan, Marie a vaincu Satan. Et il ne convenait pas que pendant un seul instant, le démon ait pu avoir la moindre influence sur la Sainte Vierge. Or, eh bien, si de fait la Sainte Vierge avait eu, ne serait-ce qu'un seul instant, la souillure du péché originel, on aurait pu dire, eh bien, à cet instant-là, le démon aurait eu une mainmise sur elle. Et il ne convenait pas que pendant un seul instant, le démon n'ait pas eu la moindre mainmise sur celle qui était appelée à devenir la mère de Dieu. Alors comment est-ce que, en voyant les arguments pour et les arguments contre, comment ça se fait que l'Église ensuite a fini par trancher, par résoudre ce dilemme ? Tout d'abord par le Saint-Esprit, qui guide l'Église, bien sûr. Mais si elle l'a fait aussi, c'est parce qu'elle a ensuite après précisé les choses. Donc tout d'abord, il faut affirmer qu'il n'y a de salut pour personne que par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, saint Paul le dit dans son, dans les Actes des Apôtres, donc les Actes des Apôtres écrits par Saint Luc, qui était compagnon de Saint Paul. Donc Saint Paul dit, il n'y a de salut en aucun autre. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Donc la Sainte Vierge a eu besoin de rédemption. Tout homme, ici-bas, doit être racheté. Donc la Sainte Vierge a été rachetée. Ce serait une erreur de se dire, puisqu'elle était immaculée, elle n'avait pas besoin d'être rachetée. Si, si, la Sainte Vierge a été rachetée. Et elle a même été rachetée d'une façon plus parfaite que tous les hommes. Elle a été rachetée selon un mode unique. Alors que toutes les âmes sont guéries par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge a été préservée du mal. Et donc c'est encore un don plus grand d'être préservé du mal que d'être guéri du mal. Moi, je préfère quelqu'un qui m'empêche d'avoir un accident que ensuite celui qui viendra me soigner très délicatement à l'hôpital après. Voyez. Oui. Eh bien, la Sainte Vierge, justement, ayant été créée immaculée, a été non seulement rachetée comme nous avons été rachetés, mais a eu en plus une rédemption libératrice et réparatrice, qui est la manière dont nous sommes nous-mêmes rachetés, elle a bénéficié d'une rédemption préservatrice. Et ceci en raison des mérites futurs de son Fils, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dès à présent, on peut dire que l'amour de notre Seigneur pour sa mère a été si grand qu'il a voulu la racheter plus parfaitement que toutes les autres créatures. Après son immaculée conception, la plénitude initiale de grâce. Donc l'archange Gabriel, lorsqu'il rencontre la Sainte Vierge, il lui dit « Salut, pleine de grâce ». Donc la Sainte Vierge était vraiment pleine de grâce, remplie de grâce. Remplie de la grâce de Dieu, ça veut dire remplie de la sainteté de Dieu. Et donc la Sainte Vierge a eu une telle plénitude de grâce dès sa conception qu'elle surpasse en sainteté tous les saints et tous les anges réunis, comme un diamant vaut plus que quantité d'autres pierres précieuses prises ensemble. Donc dès l'origine, la Sainte Vierge a eu une plénitude de grâce bien supérieure à la grâce présente dans les plus grands saints de la terre et dans les plus grands anges du ciel. Et cette plénitude n'a cessé de grandir tout au long de sa vie. En effet, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes in via, nous sommes sur la route. Et nous sommes sur la route pour avancer. C'est là le plan de Dieu. Nous sommes là pour avancer à pas d'amour. Et en Notre-Dame, aucune faute vénielle, aucune imperfection n'a arrêté son progrès. Et au contraire, même plus elle a avancé en âge, et plus son ascension vers Dieu a été rapide. Alors maintenant, le fait que son ascension était rapide ne veut pas dire pour autant qu'elle ait perçu elle-même, vous voyez, cet avancement. Voyez. On aimerait bien parfois savoir exactement où on en est, et est-ce qu'on a pu vraiment progresser. Et c'est vrai qu'on se connaît souvent mal. Il faut laisser cela au bon Dieu. Mais ce qui est quand même certain, c'est que dans le plan de Dieu, nous devons avancer toute notre vie à pas d'amour. Celui qui n'avance pas recule. C'est vrai dans la vie naturelle, mais c'est vrai aussi dans la vie surnaturelle. Et donc c'est une consolation de penser qu'une âme, ici-bas, a reçu pleinement tout ce que Dieu voulait lui donner. Une âme n'a jamais été, comme la très sainte Vierge Marie, n'a jamais été en dessous de ce que le bon Dieu désirait d'elle. D'où la parole de l'ange, « Ave gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus ». Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Ensuite, la Sainte Vierge a eu, en plus de son immaculée conception et de cette plénitude initiale de grâce, elle a eu le don d'intégrité. Le don d'intégrité est ce don qu'avaient déjà nos premiers parents, Adam et Ève, qui consistait dans une soumission parfaite des passions à la raison. Et de la raison à Dieu. C'est pour ça que le péché originel ne pouvait pas être un péché de gourmandise, par exemple. parce qu'il y avait cette soumission parfaite des passions à la raison. Et donc la Sainte Vierge, elle, a eu ce don d'intégrité. Donc le foyer de convoitise n'a jamais été présent en Notre-Dame. Donc elle n'a jamais eu le moindre mouvement de sensibilité déréglé qui a pu prévenir son jugement ou obtenir son consentement. Il y avait une subordination toujours parfaite de sa sensibilité à son intelligence et à sa volonté, et de sa volonté à Dieu. De même, son jugement était toujours éclairé, toujours droit. Et certainement qu'elle a eu aussi le privilège d'avoir une connaissance supérieure de ce que dit l'Écriture du Messie, de l'incarnation et de la rédemption. S'il est vrai que le bon Dieu a éclairé les prophètes sur le prophète à venir, qui était notre Seigneur Jésus-Christ, certainement que la Très Sainte Vierge Marie a eu des lumières particulières sur également son Fils. Ensuite, autre privilège de Notre-Dame, c'est sa maternité jointe à sa virginité perpétuelle. Donc elle est restée vierge, vierge dans la conception, dans l'enfantement et après. Et puis enfin, son Assomption. Son Assomption, c'est-à-dire cette grâce qu'elle a eue de pouvoir monter au ciel avec son corps. Marie, conçue sans la tache du péché originel, ne devait pas connaître la corruption du tombeau. Donc il y a un lien entre les deux, bien sûr, puisque la mort est une conséquence du péché, la corruption du tombeau est une conséquence du péché. La Sainte Vierge, n'ayant pas eu la tache du péché originel, ne devait pas connaître cette corruption du tombeau. En conclusion, je pourrais dire ce que disait saint Bonaventure, une phrase qui résume bien toutes ces qualités de la Très Sainte Vierge. Dieu aurait pu créer un monde plus grand et plus parfait. Dieu est tout-puissant, il aurait pu créer un monde plus grand et plus parfait. Mais, ajoute-t-il, il ne pouvait rien réaliser de plus digne que Marie. C'est très beau comme expression. Ça montre bien sûr la grande dévotion pour saint Bonaventure, pour la Très Sainte Vierge. Mais certainement que c'est juste. Dieu aurait pu créer un monde plus grand et plus parfait, mais il ne pouvait rien réaliser de plus digne que Marie. Alors maintenant, vous me direz, mais pourquoi la Sainte Vierge a-t-elle connu la souffrance et la mort, alors qu'elle n'avait pas la souillure du péché originel? Eh bien, la douleur et la mort en Marie, bon, certains en plus pour l'expression de mort utilisent le terme de dormition, c'est une question disputée donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc la douleur et la mort ne furent pas en Marie comme en nous des suites du péché, mais ce furent des suites de la nature humaine. Par nature, un homme est mortel. Et ce n'est que par un privilège particulier que nos premiers parents donc, avaient été exempts de ce mal. Par conséquent, de la même manière que notre Seigneur, qui n'a jamais péché, a voulu souffrir et mourir pour nous, la Sainte Vierge, de son côté, a accepté volontairement la souffrance et la mort pour s'unir au sacrifice de son Fils et au rachat de nos âmes. Et on peut dire, sans risque d'erreur, que la Sainte Vierge a souffert davantage que toute autre créature. Et pourquoi cela? Eh bien, plus une âme est proche de Dieu, plus elle souffre de voir les âmes s'écarter de Dieu. Plus nous aurons une conscience juste de ce qu'est Dieu, de ce qu'est le ciel, de ce qu'est l'enfer, et plus nous aurons une sainte horreur du péché. Et également une grande souffrance en voyant les âmes s'écarter de Dieu. On le voit même ici-bas, plus une maman aime son enfant, et plus elle souffre, bien sûr, de voir cet enfant vivre loin de Dieu, c'est clair. Donc la Sainte Vierge, qui est réellement mère de Dieu, et qui, comme on va le voir, est réellement notre mère, avait une connaissance bien plus profonde que, que quiconque, des perfections de Dieu et du bonheur que le bon Dieu allait nous préparer, nous a préparé au ciel, mais également du malheur éternel de l'enfer. Et donc, la Sainte Vierge, pour ces motifs-là, a souffert plus que quiconque ici-bas. Et même, bien sûr, si aujourd'hui elle ne souffre plus directement, puisqu'elle est au ciel, quand elle était, par exemple, à la Salette, eh bien là, elle parle encore au présent. Elle dit « Depuis le temps que je souffre pour vous autres, et vous n'en faites pas cas. » Donc, en conclusion, la grâce en Notre-Dame nous rappelle, de notre côté à nous, la grâce de notre baptême. La grâce de notre baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Et nous devons rendre grâce à Dieu pour ce trésor merveilleux, puisque c'est la miséricorde de Dieu qui était à l'origine de ce premier don de Dieu, de don surnaturel de Dieu. La miséricorde, vous voyez ici-bas, précède toujours la justice, dans l'ordre naturel comme dans l'ordre surnaturel. Le fait que nous ayons été créés est déjà un acte de miséricorde du bon Dieu. Et le fait ensuite d'avoir été élevé à la grâce, eh bien, c'est un acte encore de la miséricorde du bon Dieu. Et ensuite, la justice de Dieu suit la miséricorde. Parce que Dieu est juste, eh bien, il sera fidèle. Donc, puisqu'il nous a créés et nous a rachetés, eh bien, il nous aidera ensuite toute notre vie à rester fidèle. Parce que lui-même est fidèle. Et maintenant, la fidélité à la grâce en Notre-Dame nous montre ce que devrait être notre propre vie, une ascension continuelle vers Dieu. Et puis enfin, les souffrances de la Sainte Vierge nous montrent aussi le prix de la sainteté. C'est au prix de grandes souffrances que la Sainte Vierge nous a mérité le salut. Ne laissons pas perdre le fruit de la rédemption. Alors maintenant, je terminerai par une dernière considération sur le fait que la Sainte Vierge est non seulement mère de Dieu, mais ensuite est mère des hommes, donc est notre mère. Un jour, Sainte Gertrude, à l'office divin, elle a eu une distraction. Ça va vous consoler de penser que des saints avaient aussi des distractions pendant l'office divin. Sur quoi portait la distraction? C'est que elle était tombée sur le passage d'Évangile où, en parlant de notre Seigneur, il était fait mention du fils premier-né. Fils premier-né? Ben non, la Sainte Vierge n'a pas eu d'autres enfants. C'est pas fils premier-né, c'est fils unique. Et à ce moment-là, la Sainte Vierge lui apparaît et lui dit non, c'est pas fils unique, c'est fils premier-né. Car après mon fils Jésus, ou plus véritablement en lui et par lui, je vous ai tous engendrés dans les entrailles de ma charité et vous êtes devenus mes fils, les frères de Jésus. Donc c'est très beau cette réflexion donc, de la Sainte Vierge à Sainte Gertrude qui montre que dès le jour de l'Annonciation, le jour où elle a accepté de devenir la mère de Dieu, elle acceptait en même temps de devenir la mère de nos âmes. Après mon Fils, ou plus véritablement en lui et par lui, je vous ai tous engendrés dans les entrailles de ma charité et vous êtes devenus mes fils, les frères de Jésus. Dans les entrailles de ma charité, donc ça veut dire que c'est l'amour de la très sainte Vierge Marie qui est à l'origine de notre qualité aujourd'hui de frère de Jésus. Donc c'est l'amour des âmes qui est à la source du salut de l'humanité. Dieu le Père a offert son Fils au monde par amour, la Sainte Vierge l'a reçu par amour. Saint Augustin le dit, Marie est la mère des membres de Jésus, parce qu'elle a coopéré par sa charité à faire naître dans l'Église des enfants de Dieu. Saint Paul lui-même, vis-à-vis de ses fidèles, il utilisait cette image. Il disait, en parlant à ses fidèles, « Mes petits-enfants que j'enfante encore, pour lesquels je ressens encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. » Galates, chapitre 4, verset 19. Donc ce qui était vrai de Saint Paul vis-à-vis de ses fidèles est encore plus vrai, bien sûr, de la Sainte Vierge vis-à-vis de nous. Sans cet amour des âmes, la Sainte Vierge n'aurait jamais été capable de rester debout au pied de la croix. C'est son amour de Dieu, bien sûr, qui l'a aidé à rester debout. Mais c'est aussi son amour des âmes. Donc, si on regarde les sources de la maternité de Marie, par laquelle la Sainte Vierge est devenue notre mère, il y a sa charité et il y a aussi la souffrance. En effet, dans le livre de l'Apocalypse, donc dernier livre de la Sainte Écriture, on voit une femme qui est revêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et qui est en proie aux douleurs de l'enfantement. Et saint Augustin nous dit qu'il s'agit de la Sainte Vierge. Or, nous savons que la Sainte Vierge a mis notre Seigneur au monde sans douleur. Elle a mis au monde sans douleur parce que, justement, notre Seigneur était Dieu et que la Sainte Vierge était aussi donc absolument pure. Donc cet enfantement de la Sainte Vierge n'est pas celle où elle enfante notre Seigneur, mais bien notre propre enfantement. Et là encore, la souffrance est féconde. C'est encore une autre vérité qu'il faudrait essayer d'imprimer dans nos âmes pendant la retraite, c'est que la souffrance est féconde. Une souffrance qui est refusée, c'est sûr, nous replie sur nous-mêmes. Et au contraire, nous entraîne pour nous donc une démolition intérieure de notre âme. Mais une souffrance qui est offerte nous grandit. La souffrance est féconde. Notre Seigneur nous a dit, si le grain de froment qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Saint Jean chapitre 12, verset 24. Ainsi, la Sainte Vierge est devenue notre mère, à la fois par sa charité et ensuite aussi par ses souffrances. Les étapes de sa maternité, de même qu'une mère conçoit un enfant, le porte et le met au monde, ainsi Marie va concevoir, porter et enfanter tous les membres de l'Église. La conception a eu lieu le jour de l'Annonciation. La Sainte Vierge a conçu notre Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur, en tant que Rédempteur. Elle est devenue la mère du Sauveur. Et le Sauveur, et le Sauveur de qui ? Ben, le Sauveur des membres du corps mystique dont nous faisons partie. Donc, en mettant au monde le Sauveur, implicitement, la Sainte Vierge mettait au monde les âmes que notre Seigneur sauverait. Oui. Donc, en acceptant de devenir la mère du Sauveur, elle acceptait en même temps les conséquences de cela. Et de quelle manière notre Seigneur nous a sauvés ? Eh bien, par sa mort. Donc, en acceptant d'être la mère du Sauveur, elle acceptait déjà d'être la mère de celui qui allait mourir pour nous. Donc, dès le jour de l'Annonciation, nous sommes présents à sa pensée et à son amour. Et en vraie mère qui accepte les peines de sa maternité, elle va offrir toutes ses souffrances pour chacun de ses enfants. À peine notre Seigneur vient-il de naître, qu'elle l'offre au Temple comme une hostie très pure. C'est très beau le mystère de la présentation de l'enfant Jésus au Temple. C'est ce jour-là qui a été choisi pour la fraternité, pour les prises de soutane, qui est le premier acte que le séminariste fait, donc du don de lui-même à Dieu. Donc on voit les mamans aussi qui sont heureuses souvent de voir leur enfant qui rentre, qui se donne ainsi à Dieu, et donc qui offre leur enfant à Dieu, comme la Sainte Vierge a offert son fils. Donc la Sainte Vierge offre son enfant à Dieu, il n'a que 40 jours, selon donc la loi de Moïse. Et au sortir du temple, on voit à travers les paroles du vieillard Siméon les dispositions intérieures de l'âme de la Sainte Vierge. Le vieillard Siméon qui prend à son tour son enfant dans les bras et qui dit « Cet enfant sera un signe de contradiction. » Et quant à vous, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Donc la Sainte Vierge vient d'offrir son enfant à Dieu en disant ben « Faites de mon enfant ce que vous voulez ». Elle sort du temple, à l'instant même, on lui dit que cette offrande a été entendue. L'offertoire de la Sainte Vierge prépare l'immolation, comme l'offertoire de la messe prépare la consécration. Votre fils sera un signe de contradiction. Quant à vous, un glaive de douleur vous transpercera l'âme. Et quelque temps après, la mort sanglante des saints innocents va confirmer cette prédiction du vieillard Siméon. Durant la vie cachée à Nazareth, elle va connaître une longue période de paix où son esprit va rester tout orienté vers le salut des âmes. Cependant, la perte de l'enfant Jésus à l'âge de 12 ans va ranimer de nouveau son appréhension. Et par ces 3 jours d'épreuve, le bon Dieu va déjà la préparer aux 3 jours où notre Seigneur sera mis au tombeau, sera dans le tombeau. Et puis enfin, il faudra attendre le ministère public de notre Seigneur pour que soit révélé clairement le fond des cœurs. Quand la vérité est révélée, le monde se partage en deux. Il y a ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Notre Seigneur est venu sur la terre, il a prêché la vérité. Les uns l'ont accepté, les autres l'ont refusé. Et au fur et à mesure que notre Seigneur va révéler d'une façon plus claire la vérité, eh bien, au fur et à mesure, l'acceptation sera plus pleine et l'opposition sera plus violente. Et c'est ainsi que la Sainte Vierge, bien sûr, avec son intuition féminine, et puis en même temps aussi par ce qu'elle voit sous les yeux et la connaissance qu'elle a des Écritures, elle suit de près toute cette évolution jusqu'au moment où va arriver l'enfantement au pied de Jésus crucifié. Arrive le grand jour du Vendredi Saint. Après avoir suivi son divin Fils sur la voie douloureuse du calvaire et assisté à sa crucifixion, Marie se tient debout au pied de la croix. Stabat Mater Dolorosa. Elle voit son Fils couronné d'épines, défiguré, couvert de blessures de la tête aux pieds. Elle entend des blasphèmes et des jurons. Quand on lit la Sainte Écriture, on est frappé spécialement par ce torrent de haine qui se déverse vraiment sur notre Seigneur. Il n'y a juste que quelques âmes choisies et qui sont vraiment très très peu nombreuses à consoler notre Seigneur. Et les synoptiques, donc Saint Matthieu, Saint Luc et Saint Marc, ont eux mis l'accent sur cette opposition rencontrée par notre Seigneur et qui met encore davantage en valeur, je dirais, les paroles de notre Seigneur, dont la première parole est « Seigneur, mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et après cette première parole, eh bien le larron qui est là à côté, qui blasphémait au départ, d'après ce que nous disent les évangélistes, le larron qui va devenir le bon larron, eh bien en entendant notre Seigneur qui pardonne à tous ceux qui le font souffrir, il se dit, bien, peut-être qu'il pourra aussi me pardonner. Et donc il dit, Seigneur, ayez pitié de moi, pensez à moi lorsque vous serez dans votre royaume, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc cette transformation du cœur du larron, bien sûr qu'il le doit à notre Seigneur, mais il le doit aussi aux prières de la Sainte Vierge, certainement. Et c'est à ce moment-là, alors, que notre Seigneur, voyant cette communion de pensée et cette communion de souffrance entre lui et sa mère, qui va prononcer cette parole par laquelle nous allons devenir réellement enfants de Marie. Il reprend sa respiration, il abaisse les yeux vers la Sainte Vierge et Saint Jean et il prononce ces paroles merveilleuses. « Femme, voilà votre fils. Fils, voilà votre mère. » Donc il faut comprendre ici que Saint Jean représentait, spécialement les prêtres, puisque Saint Jean est prêtre, mais il représentait même, on peut dire, tous les fidèles, tous les justes et tous les pécheurs repentants. Par conséquent, c'est à ce moment-là que nous sommes devenus enfants de Marie. Donc notre Seigneur est sur la croix, on lui a tout enlevé jusqu'à ses vêtements, il n'a plus rien, il n'y a plus que sa mère qui est là, il nous la donne. Femme, voilà votre fils. Ce qui signifie, ô femme qui souffrez avec moi, soyez féconde avec moi. Ô vous qui vous unissez si intimement à ma douleur, soyez la mère de ceux que j'engendre par mon sang et par mes blessures. Alors Bossuet a ici cette réflexion. « Quoi ? » s'écrie Bossuet, faisant parler la Sainte Vierge. « Vous me donnez un autre fils à votre place, un autre que vous. Quel adieu me dites-vous, ô mon fils ? Est-ce ainsi que vous consolez votre mère ?» Ainsi, d'un côté, cette parole accroît encore la souffrance de la Sainte Vierge, mais en même temps, elle la rend féconde. Saint Louis-Marie de Montfort dit « Dieu a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une créature en était capable pour pouvoir produire son fils et tous les membres de son corps mystique. » Et bien sûr que la Sainte Vierge, qui a entendu ces paroles, elle a eu à cœur de les accomplir. C'est certain que quand une personne très proche va mourir, on essaie de recueillir ces dernières paroles. Et on essaie de les mettre en application. La dernière parole adressée par notre Seigneur vivant à son Fils, adressée par notre Seigneur à la Très Sainte Vierge Marie, eh bien, c'est « Femme, voilà votre Fils ». Donc, bien sûr qu'elle a eu à cœur d'accomplir parfaitement, de répondre parfaitement à cette attente de son Fils. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle acceptera de rester encore 15 ou 20 ans pour seconder les apôtres, pour les soutenir dans l'Église naissante. Donc, en conclusion, pour cette conférence sur Marie, qui est à la fois Mère de Dieu et qui est notre Mère, pour nous-mêmes, en tout cas, essayer donc de bien prendre conscience de la place de la charité dans la vie spirituelle. La fécondité de notre vie dépend de notre degré de charité. Aux yeux de Dieu, ce ne sont pas tant nos actions qui comptent que l'intention qui les anime. Ensuite, après, réaliser la valeur de la souffrance lorsqu'elle est mue par la charité. Et puis enfin, suivre l'exhortation du livre de l'Ecclésiastique qui dit « N'oublie pas les souffrances de ta mère ». Ecclésiastique, chapitre 7, verset 29. « N'oublie pas les souffrances de ta mère ». On médite souvent sur les sept douleurs de la Sainte Vierge. Sept, c'est le chiffre de la perfection. Et donc, le chiffre 7 par rapport aux douleurs montre l'intensité des douleurs et l'extension des douleurs de la Sainte Vierge. C'est aussi un stimulant, certainement, pour notre vie spirituelle, que de méditer sur ces souffrances. C'est certain qu'il n'y a pas de levier plus efficace pour nous rendre plus généreux et plus fidèles que la méditation et de la passion de notre Seigneur et des souffrances de la Sainte Vierge. C'est sûr. C'est sûr. Alors, au début, c'est vrai qu'on préfère dans la vie souvent les mystères joyeux ou les mystères glorieux aux mystères douloureux. Mais ensuite, après, petit à petit, eh bien, on doit demander au bon Dieu cette grâce de saisir la place de la croix dans notre vie. De la croix, non pas comme étant un facteur d'extinction pour nous ou de repliement sur nous-mêmes, mais comme étant au contraire un moyen de salut. Donc nous allons nous rendre maintenant à l'église pour une petite prière.